Paul Bourget, le disciple. Un jeune homme. C'est à toi que je veux dédier ce livre, jeune homme de mon pays. À toi que je connais si bien, quoique je ne sache de toi ni ta ville natale, ni ton nom, ni tes parents, ni ta fortune, ni tes ambitions, rien sinon que tu as plus de 18 ans et moins de 25, et que tu vas, cherchant dans nos volumes, à nous tes aînés, des réponses aux questions qui te tourmentent. Et des réponses ainsi rencontrées dans ces volumes dépend un peu de ta vie morale, un peu de ton âme. Et ta vie morale, c'est la vie morale de la France même. Ton âme, c'est son âme. Dans 20 ans d'ici, toi et tes frères, vous aurez en main la fortune de cette vieille patrie, notre mère commune. Vous serez cette patrie elle-même. Qu'auras-tu recueilli? Qu'aurez-vous recueilli dans nos ouvrages? Pensant à cela, il n'est pas d'honnête homme de lettres, si chétif soit-il, qui ne doive trembler de responsabilité. Tu trouveras dans le disciple l'étude d'une de ces responsabilités-là. Puisses-tu y acquérir une preuve que l'ami qui t'écrit ces lignes possède, à défaut d'autres mérites, celui de croire profondément au sérieux de son art. Puisses-tu trouver dans ces lignes même la preuve qu'il pense à toi bien anxieusement. Oui, il pense à toi, et cela depuis bien longtemps, depuis les jours où tu commençais d'apprendre à lire, alors que nous autres, qui marchons aujourd'hui vers notre 40e année, nous griffonnions nos premiers vers et notre première page de prose au bruit du canon qui grondait sur Paris. Dans nos chambres d'étudiants, on n'était pas gais à cette époque. Les plus âgés d'entre nous venaient de partir pour la guerre, et nous, qui devions rester au collège, du fond de nos classes à demi désertes, nous sentions peser déjà sur nous le grand devoir du relèvement de la patrie. Nous t'évoquions souvent alors, dans cette fatale année 1871, ô jeunes Français de maintenant, nous qui voulions vouer notre effort aux lettres. Mes amis et moi, nous répétions les beaux vers de Théodore de Banville. Vous en qui je salue une nouvelle aurore, vous tous qui m'aimerez, jeunes hommes des temps qui ne sont pas encore, ô bataillon sacré. Cette aurore de demain, nous la voulions aussi rayonnante que notre aurore à nous était mélancolique et embrumée d'une vapeur de sang. Nous souhaitions mériter d'être aimés de vous, nos cadets nés de la veille, en vous laissant de quoi valoir mieux que nous ne valions nous-mêmes. Nous nous disions que notre œuvre à nous était de vous refaire, à vous, une France nouvelle, par notre action privée et publique, par nos actes et par nos paroles, par notre ferveur et par notre exemple, une France rachetée de la défaite, une France reconstruite dans sa vie extérieure et dans sa vie intérieure. Tout jeunes que nous fussions alors, nous savions, pour l'avoir appris dans nos maîtres, et ce fut leur meilleur enseignement, que les triomphes et les défaites du dehors traduisent les qualités et les insuffisances du dedans. Nous savions que la résurrection de l'Allemagne au début du siècle avait été avant tout une œuvre d'âme, et nous nous rendions compte que l'âme française était bien la grande blessée de 1870, celle qu'il fallait aider, penser, guérir. Nous n'étions pas les seuls, dans la généreuse naïveté de notre adolescence, à comprendre que la crise morale était alors, ce qu'elle est toujours, la grande crise de ce pays-ci, puisqu'en 1873, le plus vaillant de nos chefs de file, Alexandre Dumas, disait dans la préface de La femme de Claude, s'adressant aux Français de son âge comme je m'adresse à toi, mon frère plus jeune. « Prends garde, tu traverses des temps difficiles. Tu viens de payer cher. Elles ne sont même pas encore toutes payées, tes fautes d'autrefois. Il ne s'agit plus d'être spirituel, léger, libertin, railleur, sceptique et folâtre. En voilà assez pour quelque temps au moins. Le Dieu, la nature, le travail, le mariage, l'amour, l'enfant, tout cela est sérieux, très sérieux, et se dresse devant toi. Il faut que tout cela vive ou que tu meures. De cette génération dont je suis, et que soulevait ce noble espoir de refaire la France, je ne peux pas dire qu'elle ait réussi, ni même qu'elle ait été assez uniquement préoccupée de son œuvre. Ce que je sais, c'est qu'elle a beaucoup travaillé. Oui, beaucoup. sans trop de méthode, hélas, mais avec une application continue et qui me touche quand je songe au peu qu'on fait pour elle, les hommes au pouvoir. Combien nous avons tous été abandonnés à nous-mêmes. L'indifférence où nous ont tenus ceux qui dirigeaient les affaires et à qui jamais l'idée n'est venue de nous encourager, de nous appuyer, de nous diriger. Ah, la brave classe moyenne, la solide et vaillante bourgeoisie que possède encore la France. Qu'elle a fourni depuis ses 20 ans d'officiers laborieux, cette bourgeoisie, d'agents diplomatiques habiles et tenaces, de professeurs excellents, d'artistes intègres. J'entends dire parfois, quelle vitalité dans ce pays, il continue d'aller là où un autre mourrait. Eh bien, s'il va en effet depuis 20 ans, c'est d'abord par la bonne volonté de cette jeune bourgeoisie qui a tout accepté pour servir le pays. Elle a vu des maîtres d'un jour proscrire au nom de la liberté ses plus chères croyances, des politiciens de hasard jouer du suffrage universel comme d'un instrument de règne et installer leur médiocrité menteuse dans les plus hautes places. Elle l'a subi, ce suffrage universel, la plus monstrueuse et la plus inique des tyrannies, car la force du nombre est la plus brutale des forces, n'ayant même pas pour elle l'audace et le talent. La jeune bourgeoisie s'est résignée à tout, elle a tout accepté, pour avoir le droit de faire la besogne nécessaire. Si nos soldats vont et viennent, si les puissances étrangères nous tiennent en respect, si notre enseignement supérieur se développe, si nos arts et notre littérature continuent d'affirmer le génie national, c'est à elle que nous le devons. Elle n'a pas de victoire à son actif, cette génération des jeunes gens de la guerre, cela est vrai. Elle n'a pas su établir une forme définitive de gouvernement, ni résoudre les problèmes redoutables de politique étrangère et de socialisme. Pourtant, jeune homme de 1889, ne la méprise pas. Sache rendre justice à tes aînés. Par eux, la France a vécu. Comment vivra-t-elle par toi? C'est la question qui tourmente à l'heure actuelle tous ceux de ses aînés qui ont gardé la foi dans le relèvement du pays. Tu n'as plus, toi, pour te soutenir, la vision des cavaliers prussiens galopant victorieux entre les peupliers de la terre natale. Et de l'horrible guerre civile, tu ne connais guère que la ruine pittoresque de la cour des comptes, où les arbres poussent leur végétation luxuriante parmi les pierres roussies, qui prennent de poétiques allures de palais anciens. Nous autres, nous n'avons jamais pu considérer que la paix de 71 eût tout réglé pour toujours. Que je voudrais savoir si tu penses comme nous. Que je voudrais être sûr que tu n'es pas prêt à renoncer à ce qui fut le rêve secret, l'espérance consolatrice de chacun d'entre nous, même de ceux qui n'en ont jamais parlé. Mais non, j'en suis sûr, et que tu te sens triste quand tu passes devant l'arc où les autres ont passé, même si c'est avec ta maîtresse et par les beaux soirs d'été. Tu la quitterais gaiement pour aller là-bas si demain il le fallait? J'en suis sûr encore, mais ce n'est pas assez de savoir mourir. Es-tu décidé à savoir vivre? Lorsque tu le vois, cet arc de triomphe, et que tu te souviens de l'épopée de la grande armée, regrettes-tu de n'avoir pas dans tes cheveux le souffle héroïque des conscrits d'alors? Quand tu te souviens de 1830 et des luttes glorieuses du romantisme, éprouves-tu la nostalgie de n'avoir pas, comme ceux d'Hernani, un grand drapeau littéraire à défendre? Sens-tu, quand tu rencontres un des maîtres d'aujourd'hui, un Dumas, un Taine, un Lecomte de Lille, une émotion à penser que tu as là devant toi un des dépositaires du génie de ta race? Quand tu lis des livres, comme ceux que nous devons écrire quand il nous faut peindre les coupables passions et leurs martyrs, souhaites-tu d'aimer mieux que n'ont aimé les auteurs de ces livres? As-tu de l'idéal, mon frère, plus d'idéal que nous? De la foi, plus de foi que nous? De l'espérance, plus d'espérance que nous? Si c'est oui, donne-moi la main, et laisse-moi te dire merci. Si c'est non, il y a deux types de jeunes gens que je vois devant moi à l'heure présente, et qui sont devant toi aussi comme deux formes de tentation, également redoutables et funestes. L'un est cynique et volontiers jovial. Il a, dès 20 ans, fait le décompte de la vie, et sa religion tient dans un seul mot, jouir, qui se traduit par cet autre, réussir. Qu'il fasse de la politique ou des affaires, de la littérature ou de l'art, du sport ou de l'industrie, qu'il soit officier, diplomate ou avocat, il n'a que lui-même pour Dieu, pour principe et pour fin. Il a emprunté à la philosophie naturelle de ce temps la grande loi de la concurrence vitale, et il l'applique à l'œuvre de sa fortune avec une ardeur de positivisme qui fait de lui un barbare civilisé, la plus dangereuse des espèces. Alphonse Daudet, qui a su merveilleusement le voir et le définir, ce jeune homme moderne, l'a baptisé le Stegel Vorläufer. Et lui-même, ce personnage s'appelle volontiers fin de siècle. Il n'estime que le succès, et dans le succès, que l'argent. Il est convaincu, en lisant ce que j'écris ici, car il me lit comme il lit toutes choses, ne fût-ce que pour être dans le train, que je me moque du public en traçant ce portrait, et que moi-même je lui ressemble. Car il est si profondément nihiliste à sa manière, que l'idéal lui paraît une comédie chez tout autre, comme il en serait, comme il en est une chez lui, quand il juge à propos, par exemple, de mentir au peuple pour avoir ses votes. Ce jeune homme-là, c'est un monstre, n'est-ce pas? Car c'est être un monstre que d'avoir 25 ans, et pour âme, une machine à calcul, au service d'une machine à plaisir. Je le redoute moins, cependant, pour toi, que cet autre qui a à lui toutes les aristocraties des nerfs, toutes celles de l'esprit, et qui est un épicurien intellectuel et raffiné, comme le premier était un épicurien brutal et scientifique. Ce nihiliste délicat, comme il est effrayant à rencontrer et comme il abonde. À 25 ans, il a fait le tour de toutes les idées. Son esprit critique, précocement éveillé, a compris les résultats derniers des plus subtiles philosophies de cet âge. Ne lui parle pas d'impiété, de matérialisme. Il sait que le mot matière n'a pas de sens précis, et il est d'autre part trop intelligent pour ne pas admettre que toutes les religions ont pu être légitimes à leur heure. Seulement il n'a jamais cru, il ne croira jamais à aucune, pas plus qu'il ne croira jamais à quoi que ce soit, sinon au jeu amusé de son esprit qu'il a transformé en un outil de perversité élégante. Le bien et le mal, la beauté et la laideur, les vices et les vertus lui paraissent des objets de simple curiosité. L'âme humaine tout entière est, pour lui, un mécanisme savant et dont le démontage l'intéresse comme un objet d'expérience. Pour lui, rien n'est vrai, rien n'est faux, rien n'est moral, rien n'est immoral. C'est un égoïste subtil et raffiné dont toute l'ambition, comme l'a dit un remarquable analyste Maurice Barrès dans son beau roman de L'homme libre, ce chef-d'œuvre d'ironie auquel il manque seulement une conclusion, consiste à adorer son moi, à le parer de sensations nouvelles. La vie religieuse de l'humanité ne lui est qu'un prétexte à ces sensations-là, comme la vie intellectuelle, comme la vie sentimentale. Sa corruption est autrement profonde que celle du jouisseur barbare. Elle est autrement compliquée, et le beau nom de dilettantisme dont il la pare en dissimule la férocité froide, la sécheresse affreuse. Ah, nous le connaissons trop bien, ce jeune homme-là. Nous avons tous failli l'être, nous que les paradoxes de maîtres trop éloquents ont trop charmé. Nous l'avons tous été un jour, une heure. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour te montrer, à toi qui ne l'es pas encore, enfant de 20 ans chez qui l'âme est en train de se faire, ce que cet égoïsme-là peut cacher de scélératesse au fond de lui. Ne sois ni l'un ni l'autre de ces deux jeunes hommes, toi mon jeune frère. Ne sois ni le positiviste brutal qui abuse du monde sensuel, ni le sophiste dédaigneux et précocement gâté qui abuse du monde intellectuel et sentimental. Que ni l'orgueil de la vie, ni celui de l'intelligence ne fassent de toi un cynique et un jongleur d'idées. Dans ces temps de conscience troublée et de doctrine contradictoire, attache-toi, comme à la branche de salut, à la phrase du Christ « Il faut juger l'arbre par ses fruits ». Il y a une réalité dont tu ne peux pas douter, car tu la possèdes, tu la sens, tu la vis à chaque minute, c'est ton âme. Parmi les idées qui t'assaillent, il en est qui rendent cette âme moins capable d'aimer, moins capable de vouloir. Tiens pour assuré que ces idées sont fausses par un point, si subtiles te semblent-elles, soutenues par les plus beaux noms, parées de la magie des plus beaux talents. Exalte et cultive en toi ces deux grandes vertus, ces deux énergies en dehors desquelles il n'y a que flétrissure présente et qu'agonie finale, l'amour et la volonté. La science d'aujourd'hui, la sincère, la modeste, reconnaît qu'au terme de son analyse s'étend le domaine de l'inconnaissable. Le vieux Littré, qui fut un saint, a magnifiquement parlé de cet océan de mystère qui bat notre rivage, que nous voyons devant nous, réel, et pour lequel nous n'avons ni barque ni voile. À ceux qui te diront que derrière cet océan il y a le vide, l'abîme du noir et de la mort, aie le courage de répondre. Vous ne le savez pas. Et puisque tu sais, puisque tu éprouves qu'une âme est en toi, travaille à ce que cette âme ne meure pas en toi avant toi-même. Je te le jure, mon enfant, la France a besoin que tu penses cela, et puisse ce livre t'aider à le penser. N'y cherche pas, ce que tu n'y trouverais point, des allusions à de récents événements. Le plan en était tracé et une partie en était écrite quand deux tragédies, l'une française et l'autre européenne, sont venues attester qu'un même trouble d'idées et de sentiments remue, à l'heure présente, de hautes et d'humbles destinées. Fais-moi l'honneur de croire que je n'ai pas spéculé sur des drames qui ont fait souffrir, qui font souffrir trop de personnes. Les moralistes dont c'est le métier de chercher les causes rencontrent parfois des analogies de situations qui leur attestent qu'ils ont vu juste. Ils aimeraient mieux alors s'être trompés. Que je voudrais, moi, pour me citer en exemple, qu'il n'y eût jamais eu dans la vie réelle de personnages semblables, de près ou de loin, au malheureux disciple qui donne son nom à ce roman. Mais s'il n'y en avait pas eu, s'il n'y en avait pas encore, je ne t'aurais pas dit ce que je viens de te dire, ô jeune homme de mon pays, à qui je voudrais tant être bienfaisant, par qui je souhaite si passionnément d'être aimé et de le mériter. Paul Bourget, Paris, 5 juin 1889.